Merci d'écouter RFI. Il est 14h30 à Bucarest où l'on retrouve nos envoyés spéciaux. Une demi-heure d'édition spéciale au lendemain de la présidentielle. Bonjour André-Anne Mellard.
Bonjour Anne Cantner et merci, à tout à l'heure.
Édition spéciale en direct de Bucarest. André-Anne Mellard.
On est toujours en Roumanie en direct de Bucarest suite de notre journée spéciale sur RFI au lendemain du second tour de la présidentielle. On analyse avec nos invités la victoire du pro-européen et maire de Bucarest, Nicu Șordan. Victoire face au candidat nationaliste pro-Trump, George Simion. La conclusion inattendue, si je puis dire, d'une période électorale chaotique et sur le bureau du nouveau président roumain à présent, de nombreux dossiers internationaux, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, et des enjeux nationaux aussi nombreux en Roumanie. Ce que la population attend de son nouveau président, on en parle jusqu'à 14h heure de Paris, 15h heure de Bucarest. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Édition spéciale en direct de la București.
Et nos invités pour cette demi-heure dans les studios de RFI Romania à Bucarest, Christian Pirvulescu, bonjour à vous. Politologue, professeur à la faculté de sciences politiques, École nationale des études politiques et d'administration de Bucarest et membre du comité économique et social européen à Bruxelles. Et puis également avec nous, Oana Marinescu. Bonjour.
Bonjour.
Consultante en communication. Merci d'être là. Communication stratégique avec nous aussi. Bien sûr, Ovidiu Naroi, rédacteur en chef à RFI Romania. Rebonjour.
Bonjour.
Et re-bienvenue.
Bonjour mes collègues et bonjour à tous.
Et également Muriel Paradon, grand reporter à RFI. Vous avez parcouru Muriel Bucarest et ses environs et vous allez nous le raconter. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Vous êtes bien sûr RFI.
Nous sommes à un moment d'espoir, mais soyez patients pour la période à venir. Ce sera une période difficile, nécessaire pour équilibrer notre économie, pour poser les bases d'une société saine. Ayez espoir et soyez patients.
Un moment d'espoir, une période de transition, de la patience, voilà ce qu'a dit Nicu Șordan, le nouveau président de Roumanie. C'était hier, Nicu Șordan qui a engrangé, on le rappelle, à peu près 54% des voix lors de ce second tour de la présidentielle, contre 46% pour son adversaire George Simion. On sent déjà dans ces mots de Nicu Șordan qu'il se prépare, le nouveau président, il se prépare et il prépare sa population à une période difficile, Oana Marinescu.
En fait, ce message, il a transmis tout au long de la campagne électorale et c'est là une grande différence entre la manière dont Nicu Șordan a communiqué et la manière dont son contre-candidat a communiqué pendant cette campagne. Mais en même temps, il transmet un message pour toute la société et notamment un message d'unité, un message de réconciliation. Et cette chose est très importante parce que cette campagne nous a trouvé en fait nous a trouvé très très divisés et elle nous a polarisé encore plus. Et c'est là, je pense, une des plus grandes difficultés du mandat de Nicu Șordan.
Mmh. Christian Pirvulescu, il semble conscient, Nicu Șordan, de l'ampleur de la tâche qui se présente face à lui, des inégalités nombreuses qu'il va devoir résoudre, des problèmes aussi qu'il va devoir résoudre, d'après vous.
Oui, bien sûr, mais le président roumain n'est pas du tout le président français. Il n'a pas le même pouvoir. Il est indépendant. Ça, c'est déjà un petit problème parce que vous savez très bien quelles sont les difficultés du président Macron pour trouver une majorité.
Vous dites ça parce qu'il s'est présenté sans étiquette, c'est ça?
Oui, voilà. Sans étiquette.
Il n'a pas de parti.
Oui. Il était président d'une partie, mais il a démissionné depuis 7 ans déjà. Et voilà, c'est vraiment très difficile. Nous n'avons pas un gouvernement maintenant. maintenant, il faut faire des efforts pour construire une majorité parlementaire et pas du tout présidentielle. Mais je veux vous dire que la Roumanie, voilà, qui a retrouvé sa résilience démocratique hier, et pour moi, c'était pas du tout une grande surprise. Mm-hmm. La grande surprise, c'était que il y a 800 000 votes plus pour Dan, mais j'étais presque sûr qu'il va gagner les élections en Roumanie. Je savais pas que la situation au diaspora, mais c'est une autre chose. Mais après Canada, après Australie, la Roumanie a transmis très clair à M. Trump, non, on n'est pas sur la même direction. On veut une démocratie libérale authentique. Et moi, je crois que c'est vraiment très important parce que ici, en Roumanie, on était fracturé cette année à cause d'un fascisme qui était vraiment très dur. C'était pas du tout un néo-fascisme ou post-fascisme. C'était le fascisme pur et dur d'entre les deux guerres que M. Siméon a représenté très bien. Et voilà, la population finalement a réagi.
Et cette population roumaine, on l'entend et elle écoute vos antennes au vidéo Naroy, oui. Rédacteur en chef ici donc à RFI Romania. Comment vous la décririez, cette société roumaine?
Bon, on a vu une société roumaine résiliente et qui a préservé sa liberté malgré toutes les défis historiques, comme professeur Christian Pârvulescu nous a dit. Et j'ai une bonne nouvelle, l'Europe fonctionne. L'Europe fonctionne en Roumanie. Voilà, l'extrême droite a misé sur une Roumanie qui n'a pas profité des avantages d'appartenance à l'Union européenne, ou qui a profité moins. Peut-être qu'ils ont misé sur le fait que c'est Roumanie, c'est majoritaire. Mais la réalité était envers. L'Europe fonctionne, la majorité a défendu le mode de vie européen, les valeurs européennes, les aspirations européennes. C'est la bonne nouvelle. Mmh. Oui, nous avons des problèmes, nous avons des déficits, nous avons les problèmes de gouvernance, corruption, disparité sociale. Mais jusqu'à fin, ici c'est l'Europe. Mmh. Et l'Europe fonctionne.
Et ça, on l'a déjà beaucoup évoqué ce matin lors de notre première édition spéciale. Je vous invite à aller la réécouter sur notre site RFI.fr. Alors, après ce panorama assez général que vous nous dressiez au vidéo Naroy, Muriel, pardon, vous qui avez parcouru une partie du pays pendant cette fin d'entre-deux tours de la présidentielle, vous avez interrogé beaucoup de Roumains sur votre chemin. Vous les avez écoutés sur leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Alors, on s'est rendu effectivement avec Arturo Simini, un journaliste à la rédaction roumaine de RFI, dans l'est du pays, vers la frontière ukrainienne. C'est 4 heures de route. On croise beaucoup de villages ruraux, isolés, même à 1 heure de Bucarest en réalité. Et la population se sent un peu oubliée, hein, que ce soit des ouvriers ou des agriculteurs. Ils ont des conditions de vie difficiles. L'inflation est importante. Alors ça, c'est vrai dans tout le pays. Moi, j'étais frappée de voir que les prix sont presque aussi élevés en France, alors que les salaires sont moindres. Il y a du chômage. Par exemple, dans la ville de Toutchia, c'est 80 000 habitants qui est à la frontière de l'Ukraine. Il n'y a plus beaucoup de tourisme depuis la guerre voisine, depuis le Covid aussi. Et le seul gros employeur de la ville, c'est le chantier naval. Et puis, il y a les campagnes. Même près de Bucarest, la population est assez paupérisée. On a rencontré des petits agriculteurs qui travaillent pour certains encore avec des charrues, qui ne dégagent aucun revenu de leur travail avec les animaux, qui se plaignent de toucher trop peu d'aide de l'Union européenne, contrairement à des agriculteurs plus gros dans d'autres pays. Alors le problème ne vient pas forcément que de l'extérieur, de l'Ukraine, de l'Union européenne. Ces Roumains le disent aussi, ils le savent bien. Ça vient aussi, et Ovidiu l'a dit, des dirigeants politiques de leur pays qui pendant des années ont volé, disent-ils, leur argent avec la corruption. Ils le dénoncent d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est frappé dès qu'on sort des grandes villes comme Bucarest de ce fossé entre les villes et les campagnes.
Merci Muriel Paradon. Nicu Jordan, donc le nouveau président de Roumanie, de mathématicien formé à l'école normale supérieure en France, à maire de Bucarest, puis à présent chef de l'État. Il a finalement donc emporté l'adhésion d'une majorité de citoyens. Comment il va réussir, Oana Marinescu, comment il va réussir, Nicu Jordan, à faire le lien entre ces populations qui, on parlait des populations rurales qui se sentent un peu oubliées?
Bon, là, c'est un véritable challenge parce que il y a en effet des disparités immenses en Roumanie entre des groupes sociaux. On a des gens qui sont très riches et d'un côté, d'autre côté, on a des populations effectivement très très pauvres. On a aussi un grand nombre de jeunes gens qui ne sont non plus dans l'école et ne sont pas employés. Là, c'est un vrai problème. Je pense que nous avons le plus grand nombre de tels jeunes gens en Europe. Donc là, il y a des problèmes profonds et je pense que c'est un risque d'attendre que Nicu Jordan soit celui qui donne la solution ultime pour toutes ces choses. Là, on aurait besoin d'un véritable effort commun de tous les acteurs politiques et sociaux de la Roumanie. Et c'est là, en fait, le rôle que, conformément à la constitution roumaine, le président peut faire. Il peut mettre à la table des acteurs différents qui peuvent commencer à négocier et à développer un plan d'action. Parce que avec les prérogatives de la Constitution, que la Constitution lui donne, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'est pas comme le chef du gouvernement, c'est pas ça. Mais là, c'est un véritable problème parce que les partis politiques de la Roumanie, je doute qu'ils ont compris le signal d'alarme que la société a tiré dès décembre 24, donc dès l'année dernière. Et si les partis qui en ce moment ont la majorité dans le Parlement ne comprennent pas qu'ils doivent changer, qu'ils doivent trouver des personnes qui sont compétentes, qui peuvent laisser de côté un petit peu les jeux politiques et le désir de contrôle du pays ou bien de leur administration locale pour le seul pouvoir politique d'eux-mêmes, alors on aura un véritable problème.
Et en tout cas, les attentes sont nombreuses hein, sur le terrain. On va écouter Florine tout de suite, il est ouvrier naval à Toulzea, près de la frontière ukrainienne. Il nous dresse ses espoirs pour l'avenir.
Pour l'avenir, nous voulons un énorme changement pour tous, pour que la diaspora rentre à la maison, pour qu'ils arrêtent de laisser leurs enfants chez leurs grands-parents, pour qu'ils soient en famille et qu'ils créent de nouveaux emplois. Toute l'industrie roumaine est détruite. Nous sommes un grand pays producteur en Europe et on se retrouve à acheter du pain chez les Hongrois. C'est inadmissible.
Christian Pierre Voulescu, je vous voyais secouer la tête. Est-ce que...
Oui, vous savez, moi, je ne crois pas que la Roumanie est un pays pauvre. La Roumanie, c'est un succès dans l'Union européenne. Extraordinaire. Il faut voir les statistiques, il faut voir l'Eurostat. Il y a des perceptions, mais on a écouté quelqu'un qui dit que la Roumanie, c'est la théorie conspirationniste, est maintenant dans une situation économique désastreuse. Oui, on a des problèmes
budgétaires. Il y a quand même des chiffres qui sont assez clairs sur ça.
Je vous donne des bons exemples. La Roumanie, en ce qui concerne le PIB par habitant, avant l'Hongrie, avant la Grèce, avant le Portugal. C'est le succès de l'économie roumaine. Oui, c'est vrai, c'est une société qui est partagée. Hier, dans les élections, on peut voir très clair le clivage entre campagne et ville. C'est clair, mais vous savez, la campagne, elle a voté pour l'extrême droite. Elle n'a pas voté pour le candidat anti-système qui veut changer et moderniser la Roumanie.
Georges Simion, il a beaucoup capitalisé hein, sur cette proximité avec les couches populaires, avec cette frange rurale dont on parlait, mais finalement on voit bien que ça n'a pas...
Ça a marché, mais c'est Roumanie rurale, ça représente que 40% de la population. Et voilà pourquoi il n'a pas réussi. Il a réussi très bien dans la diaspora, mais il y a aussi des vous savez, vous avez dit que les villages sont vides. Pourquoi sont vides? Parce que la population en Moldavie, par exemple, en Moldavie roumaine, est déjà partie pour travailler dehors. On a presque 6 millions roumains dehors qui travaillent, et ils ne sont pas tous très contents. En France, Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, et ils ont voté, oui, au premier tour, majoritairement 70% pour Simion, mais au deuxième tour, c'est plus équilibré. Et pourquoi? Parce que on n'a pas un autre avenir que l'Europe.
RFI, il est 14h44 ici à Bucarest, une heure de moins à Paris.
Journée spéciale sur RFI en direct de Bucarest. Andréane Mellard.
Notre édition spéciale en direct des studios de RFI Romania continue. Alors impossible hein, bien sûr de parler du contexte national en Roumanie sans se pencher sur son histoire. Une histoire encore assez récente qui résonne beaucoup avec les résultats de cette séquence électorale des partis traditionnels opérant depuis la fin de la dictature de Nicolae Ceaușescu en 1989. Ces partis traditionnels écartés du second tour de la présidentielle, ils n'ont pas réussi à passer le stade du premier tour et à la fin, un duel entre deux candidats anti-système. On le disait tout à l'heure, chacun anti-système à des degrés différents, mais quand même, à la lumière de la période électorale qui vient de s'écouler en Roumanie, on a pu voir ressurgir les fantômes du passé, suscitant pour certains de l'inquiétude et on l'entend ici dans ce témoignage. Alice a 23 ans.
On ne veut pas revenir 40 ans en arrière, revivre les mêmes conditions que celles que nos parents ont vécues pendant le communisme, avec peu de liberté d'expression, beaucoup de censure, sans même la possibilité de partager nos opinions, quelles qu'elles soient.
Voilà, Alice, 23 ans, hein, on le disait, qui est née donc après la mort de Ceaușescu. Même chez les jeunes, donc, cette inquiétude est présente. Muriel Paradon, vous l'avez constaté, vous, sur le terrain?
Oui, comme Alice que j'ai rencontrée, il y en a beaucoup, en tout cas à Bucarest, hein, qui ont cette peur. On a l'impression que c'est un tel traumatisme, hein, il y a de quoi effectivement cette dictature de Ceaușescu, qu'elle s'est transmise de génération en génération. Donc même les jeunes qui n'ont pas connu, c'est présent chez les parents dans les histoires de famille. Et d'ailleurs, quel que soit le sujet que vous abordez en interview, ce nom revient tout le temps. Ces jeunes urbains, effectivement éduqués, qui sont tournés vers l'Occident, vers l'Europe, vers les valeurs les libertés individuelles, un retour au communisme, aux idéologies extrémistes comme celles portées par George Simmons, ça les terrifiait vraiment avant les élections. En cas de victoire, ce candidat, évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. Mais à l'inverse aussi, vous trouvez aussi des nostalgiques de Ceaușescu, pas de la dictature évidemment, mais d'une certaine stabilité économique. On y revient encore au sujet. J'ai été frappée par exemple par cet homme de 50 ans qu'on a rencontré à Bucarest, qui n'est pas allé voter, hein, qui s'est abstenu, mais qui me disait, moi, j'ai été dans un orphelinat de Ceaușescu, j'ai été battu, hein, on se rappelle pour les plus anciens de ces fameux orphelinats, mais au moins, à cette époque, je pouvais manger à ma faim.
Voilà, cette inquiétude dont parlait Muriel, enfin ce partage de sentiments vis-à-vis du passé en Roumanie. Oana Marinescu, est-ce que vous avez une réaction, peut-être?
Ah oui, bien sûr. De toute façon, je fais partie des gens qui ont été effectivement effrayés par l'idée qu'un candidat d'extrême droite puisse devenir le président de la Roumanie. Et la peur, en fait, vient du discours illibéral très fort que ce candidat, de même que Călin Georgescu, le prédécesseur, qui est celui qui a gagné la première tour des élections.
Le premier tour qui a été annulé, candidat qui n'a pas été autorisé à se représenter après.
Exactement. Donc, toute cette équipe, il y a là un noyau dur, disons, de gens qui ont promu dans les derniers mois, dans l'espace public roumain, des mesures très dures, un discours très dur qui, en fait, promettait des changements. Le changement du régime libéral, même s'il ne le disait pas directement, mais on le voyait dans les messages qu'il passait. Ils ont menacé la presse, ils ont menacé la société civile, ils ont menacé les citoyens individuels. Donc même George Simion, entre les deux tours de scrutin, il a publié un article sur son blog personnel qui était extrêmement agressif et qui portait une menace directe à chacun des gens qui étaient contre lui. Il s'adressait directement à ceux qui étaient, je cite de ma mémoire, mes collègues de génération et d'aspiration que vous ne et ceux qui ne soutenaient pas, vous ne voyez pas la réalité de même que moi. Donc c'est le discours a été très violent. Il y a eu un grand nombre de formations d'extrême droite, des formations néo-légionnaires qui tout d'un coup, dans la dernière année, sont devenus de plus en plus visibles dans l'espace public. Des organisations de la société civile, des journalistes et même des gens avec un profil public plus puissant ont reçu des menaces directes et très dures de ces gens-là. Donc, c'est une croissance de la violence du discours. On sait, les sciences politiques nous montrent que le moment où on a une croissance du discours politique, de la violence du discours politique, on aura des pratiques politiques violentes une fois que ces politiciens-là prennent le pouvoir.
Christian Pierre-Voulescu, est-ce qu'on peut considérer finalement, en lien avec tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on peut considérer que tous les votes emportés par Georges Simeone lors de cette présidentielle ont été permis soit par une forme de nostalgie ou au contraire d'une forme d'amnésie? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Mais moi, je crois que c'est vraiment très important d'invoquer ici la guerre hybride et l'intervention russe qui était vraiment très dure, spécialement sur les réseaux sociaux, TikTok, mais pas seulement TikTok. C'est une machine de radicalisation TikTok, et pour, par exemple, en bonne partie de la diaspora roumaine, TikTok était le seul moyen de discuter, de s'informer concernant la Roumanie. Et c'était pas du tout la vraie Roumanie. C'était une Roumanie virtuelle, une Roumanie qui était influencée par la théorie conspirationniste. Il faut pas oublier que la Roumanie est le pays, à propos des théories conspirationnistes, de l'Union européenne avec le moins nombre de vaccinés anti-Covid. Il y a seulement 35% des Roumains qui ont été vaccinés. Le succès des théories conspirationnistes en 2020-2021 était immense ici à cause de la guerre hybride. Les Russes connaissent très bien la mentalité roumaine, ont utilisé l'église orthodoxe, mais aussi les églises évangélistes, qui sont vraiment très dynamiques en Roumanie. C'est-à-dire, c'est pas seulement une chose économique, c'est pas une ça suffit pas l'explication économique et sociale, et c'est une explication sociétale très importante aussi.
Mais c'est intéressant ce propos que vous avez sur TikTok. C'est vrai que c'était le réseau social a effectivement joué un rôle très prépondérant dans cette élection présidentielle. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on se promène en fait dans Bucarest, en cette période électorale, alors là qui vient de s'achever, mais quand moi je suis arrivée, en tout cas elle était encore en cours, on ne voit aucune affiche, rien qui rappelle la campagne électorale, ce qui peut laisser penser que tout s'est passé finalement sur les réseaux sociaux. Ce que vous venez de dire et ce constat peuvent faire penser qu'il y a chez les Roumains une volonté de s'écarter des canaux habituels de communication. Pourquoi ça?
Covid, c'est l'explication. Restrictions dans le moment que les restrictions.
Mais il y a peut-être une volonté de se réapproprier le discours.
Oh oui, si vous voulez, on peut dire comme ça, mais à mon avis, la télévision, le radio, c'est aussi très important. On n'a pas une presse écrite en Roumanie. Elle était détruite par l'internet, mais c'est vraiment très simple. Le principal moyen d'information en Roumanie, c'est TikTok. Et TikTok a pénétré extraordinairement la société roumaine. On discute de presque 11 millions comptes TikTok pour une population de 20 millions.
Anna Marine, est-ce que vous vouliez intervenir?
Ah oui, merci. Je pense qu'il y a plusieurs causes et elles sont très très profondes. J'y ajouterai aussi un niveau d'éducation assez bas, notamment sur dans le milieu rural. Il y a une éducation média qui ne se fait pas à l'école. On n'a pas une éducation civique, on n'a pas une éducation de la pensée critique. Donc nous avons un vrai problème avec le système d'éducation, et il y a même des recherches sociales qui montrent que une des trois choses que dont les Roumains sont le plus mécontents, c'est le système d'éducation. Une fois que on n'apprend pas à l'école comment penser critiquement, comment disons analyser une histoire et voir si elle peut être prise comme la réalité ou non, il est très facile de vendre de toutes sortes de narratifs, et je pensais que Ovidiu disait plus tôt, on a effectivement une catégorie des gens qui ont bénéficié de l'appartenance à l'Union européenne, même en utilisant de l'argent de l'Union européenne, et en même temps, ils ont cru aux narratifs anti-européens qui ont été très intensivement promus aussi par les machines de la propagande russe que par les candidats de l'extrême droite. Donc là, c'est une fois qu'on n'a pas cette éducation pour l'intégrité, pour la vérité et de faire de développer une opinion à partir de là, on peut très facilement comment ça se dit, croire tout ce qu'on entend sur TikTok.
Alors, ça sera peut-être un sujet dont va s'emparer le nouveau président de Roumanie, Nicu Ciordan. On arrive à la fin de cette édition spéciale. On aurait pu parler de bien d'autres dossiers, hein, bien sûr, les nombreuses communautés culturelles et linguistiques, par exemple, en Roumanie, comme celle des Hongrois, celui des minorités sexuelles, des minorités de genre. Autre témoignage pour terminer cette émission tout de suite, Petru, à Bucarest, César. Attentes pour son nouveau président.
Qu'il soit un président pour tous, meilleure protection pour les minorités, aussi pour les droits des femmes, la protection des LGBT. Le président, je pense, doit être un catalyseur de la société.
Alors, ce sujet a été peu, voire pas abordé lors de la présidentielle. Arrêtez-moi si je me trompe. Oana Marinescu, est-ce que le président va s'en emparer, d'après vous?
Bon, en fait, non. Le sujet de LGBT a été très très utilisé, notamment par l'extrême droite. Ils ont testé parce que il y a une certaine...
Ça a été instrumentalisé.
Oui, instrumentalisé. On a un certain niveau d'homophobie ici en Roumanie et le discours contre la communauté LGBT des candidats d'extrême droite et de tout le noyau d'extrême droite a été très dur. Lui, Nicu Ciordan, il a essayé d'éviter ce sujet, mais en même temps, la Roumanie doit faire une décision parce que cette communauté, vous savez, en Roumanie, on n'a pas une loi du partenariat civil et il y a des décisions de la Cour européenne de justice qui condamnent la Roumanie à cause de ça. Et la classe politique jusqu'à présent a refusé d'implémenter, même s'il y a des demandes en ce sens. Donc, à un moment donné, c'est peut-être le président qui fera de nouveau ou peut-être ouvrira cette conversation publique en Roumanie, mais sans commencer. Ce qui est très important, c'est de ne pas commencer cette conversation du point de vue du discours ultra conservatoire.
Christian Pirvulescu, d'après vous, pour terminer en quelques mots, quel pourrait être le premier dossier dont va s'emparer Nicu Ciordan?
Je sais que c'était l'économie, bien sûr, question. Et le budget.
Pour vous, c'est sa priorité.
Il a dit clairement, c'est sa priorité principale. Mais j'espère aussi que les problèmes sociétals sont très importants parce que la Roumanie doit s'échanger.
Oui, pour vous, c'est quelque chose qui a été trop laissé de côté ces dernières années?
Ah oui, bien sûr, à cause de cette classe politique qui est très conservateur et qui croit que la société roumaine est conservateur. Surprise, hier, la société roumaine n'était pas du tout conservateur.
Je pense que c'est une classe politique très lâche, en fait.
On est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Et alors, très rapidement, vous parliez de l'économie. Il va se pencher sur quel pan de l'économie, d'après vous, premier lieu? Il a beaucoup parlé de la corruption pendant la campagne, mais
oui, bien sûr,
c'est pas un sujet qui se règle comme ça.
Évidemment, la corruption, c'est un sujet qui est, si vous voulez, un sujet politique.
Central.
Mais le problème maintenant, c'est la situation budgétaire de la Roumanie, avec un déficit de 9%. C'était un déficit vraiment très dur pour la Roumanie. Il faut faire quelque chose, parce que dans le deux années, le gouvernement, on n'était pas du tout très sage en ce qui concerne les dépenses budgétaires. Et maintenant, la situation était vraiment très compliquée.
Et c'est quelque chose sur lequel le nouveau président Nicu Ciordan, nouveau président de Roumanie, qui a gagné donc hier le second tour de la présidentielle dans le pays, c'est un sujet sur lequel il va se pencher très sérieusement. On vous a entendu, Christian Pirvulescu. Merci beaucoup à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Je remercie surtout nos invités d'avoir été présents, d'avoir répondu à l'invitation d'RFI, Christian Pirvulescu, politologue, professeur à la faculté de sciences politiques, École nationale des études politiques et d'administration de Bucarest et membre du comité économique et social européen à Bruxelles. Merci aussi beaucoup à vous, Oana Marinescu, consultante en communication stratégique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir apporté votre éclairage sur cette présidentielle et sur ce nouveau président. Merci aussi beaucoup à Muriel Paradon pour son récit, pour ses témoignages aussi qu'elle a recueillis minutieusement pour nous. Encore merci à nos collègues de RFI Romania, Ovidiu Nahoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces éditions spéciales. Merci à tous nos collègues pour leur accueil chaleureux dans leurs très beaux locaux ici à Bucarest. Merci aussi à Alice Ménard à la technique, Benoît de Solmignac à la rédaction en chef, Sigrid Azerwal qui a programmé ces invités merveilleux qui nous ont accompagnés toute la journée, nos éditions spéciales, nos productions pour cette présidentielle roumaine, celle en Pologne, ainsi que les productions de nos rédactions numériques sont à retrouver en ligne RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio. C'est la fin de cette journée spéciale en direct de Bucarest. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal, et vous retrouvez Anne Cantner pour la suite d'RFI Midi.